Nous autres chrétiens sommes des êtres humains comme les autres. Hein. Quand tout va mal, on a besoin d'être rassuré sur l'avenir. Et puis, quand tout va bien, on est rempli de confiance et là, on fonce. En fait, la sagesse nous apprendrait plutôt de faire l'inverse. C'est-à-dire, quand tout va bien, c'est là où il faut redoubler de vigilance. C'est là où on risque d'être en danger. Et quand tout va mal, on se confie en Dieu, on se place dans sa main. Et puis là, on est en sécurité. Ce matin, on va voir donc de façon très 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 macro, c'est-à-dire sans rentrer dans les détails, deux prophéties qui concernent le retour du Seigneur et en tirer des instructions pour notre vie d'aujourd'hui. Alors Daniel chapitre 2 pour commencer. Je vais mettre le texte qui est un résumé, il y a quelques images et après une petite vidéo pour la partie importante.
Le roi Nebuchadnezzar fait un rêve et son esprit en est tout troublé. Il appelle tous les magiciens, les astrologues et les sorciers et leur donne l'ordre de lui expliquer son rêve sans qu'il ne leur fasse connaître. Ces gens lui disent
« Fais-nous connaître ton rêve et on te donnera l'explication. »
Mais le roi refuse et leur dit
« Si vous pouvez me faire connaître mon rêve et son explication, vous vivrez, sinon vous serez tués. »
Les sorciers lui disent
« Jamais un roi n'a demandé une telle chose, et ce sont seulement les dieux qui pourraient expliquer cela. »
Le roi se met en colère et ordonne de tuer les sages. Daniel, qui a connaissance de cela, se retire avec ses amis pour prier leur Dieu d'avoir compassion d'eux. Alors le mystère est révélé à Daniel dans une vision et il bénit l'Éternel. On amène Daniel devant le roi et il...
Belshazzar, est-il vrai que tu peux me révéler mon rêve ?
Pas moi, ô roi, mais le Dieu des cieux. Et c'est pour que le roi fasse connaître son interprétation qu'il m'a été révélé. Tu regardais une image qui était grande et dont l'éclat était extraordinaire. Sa tête était en or, sa poitrine, ses bras en argent, son ventre et ses cuisses en cuivre. Ses jambes en fer, ses pieds en fer et en argile modelée. Tu as continué de regarder jusqu'à ce qu'une pierre ait été détachée, et elle a frappé l'image sur les pieds de fer et d'argile et les a broyés. À ce moment-là, le fer, l'argile, le cuivre, l'argent et l'or furent broyés, devinrent comme une balle de paille, et un vent fort les emporta, si bien qu'on n'en trouva aucune trace. Quant à la pierre qui avait frappé l'image, elle devint une grande montagne, et elle remplit toute la terre.
Très bien, tu es un grand magicien et un devin, Belshazzar. Parce qu'il n'y avait que moi à connaître mon rêve et à pouvoir le raconter.
C'est Yahvé, le Dieu des cieux, le révélateur des secrets, qui fait connaître au roi ce qui arrivera à coup sûr. C'est lui qui m'a révélé ton rêve.
Peux-tu nous dire son interprétation maintenant ? Que représente cette statue ?
Toi, au roi, toi à qui le Dieu du ciel a donné le royaume, la puissance, la force et la dignité. Et dans la main de qui il a donné les bêtes des champs et les créatures ailées des cieux, tu es la tête d'or. Après toi se lèvera un autre royaume intérieur à toi. C'est la poitrine et les bras en argent, et un autre royaume, un troisième, de cuivre, qui dominera sur toute la terre. Et quant au quatrième royaume, il sera fort comme le fer, étant donné que le fer broie et écrase toutes les autres choses, comme il broiera et mettra en pièces tous les autres royaumes. Et ils deviendront comme la poussière, et un vent fort les emportera si bien qu'on n'en trouvera aucune trace. Et au jour de ces rois-là, le Dieu du ciel établira un royaume qui ne sera jamais supprimé. Il broiera tous ces royaumes, et il mettra fin. C'est là ton rêve et son interprétation est digne de foi. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui arrivera.
Voilà. Alors le roi Nebuchadnezzar tomba sur sa face et se prosterna devant Daniel et il ordonna qu'on lui offre des sacrifices et des parfums. Le roi adressa la parole à Daniel et dit « En vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois. » Et il révèle les secrets, puisque tu as pu découvrir ce secret. Ensuite, le roi éleva Daniel et lui fit de nombreux et riches présents. Il lui donna le commandement sur la province de Babylone et il établit chef suprême de tous les sages de Babylone. Daniel pria le roi de rencontrer l'intendance, de remettre l'intendance de la province de Babylone à Shadrach, Meshach et Abednego. ses compagnons donc, et Daniel était à la cour du roi. Alors, la vision d'une statue. Vous avez vu, il est question de l'établissement d'un royaume. Et bien sûr, nous, ce qui nous intéresse, mais c'est quand que ce royaume sera là? Quand est-ce que ce sera? Qu'est-ce qu'on peut comprendre de cette prophétie? Il y a deux interprétations courantes par rapport à ce même passage. Vous verrez que c'est pas les mêmes. La première, la prophétie est accomplie par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. C'est à ce moment-là que la pierre frappe la statue, au moment de Golgotha. La tête, c'est l'empire néo-babylonien. Ça, Daniel l'a expliqué. Le torse, c'est l'empire médo-perse qui lui succède. Le ventre et les cuisses, on reconnaît l'empire grec. Et les jambes et les pieds, l'empire romain. La faiblesse et la force de l'empire romain correspondent à la façon dont elle est administrée. C'est une république. Et dans les derniers temps de cette république-là, l'histoire nous apprend qu'il y a eu beaucoup de conflits, de complications entre les sénateurs et les généraux qui conduisaient des armées. Et quelques dizaines d'années après la fin de la République, Jésus-Christ va venir. Une autre interprétation, c'est que la pré-prophétie sera accomplie au retour de Jésus-Christ. Le début est la même chose, mais on voit, par exemple, l'Europe, quand elle était la première puissance mondiale, quand elle dominait le monde, ben on voyait là la prolongation de l'Empire romain. C'était les orteils faits de ces royaumes qui ne s'entendaient pas entre eux et qui pourtant étaient si puissants. Et maintenant, bien sûr, l'Europe n'est plus ce qu'elle était. La globalisation que nous connaissons, avec ses villes ouvertes, la facilité de circulation des hommes et des marchandises, et tant d'autres choses, sont une reproduction de l'Empire romain. Et on a vu, même tout récemment qu'avec la pandémie, combien notre civilisation était fragile. C'est un colosse au pied d'argile. Et la prophétie, on la voit alors s'accomplir au retour de Jésus-Christ que l'on attend. Deux interprétations pour une même prophétie. Réfléchissons à la statue. C'est curieux que c'est une évolution inverse. Elle est construite, d'habitude on pourrait croire que c'est... Nous on a toujours dans notre idée le système des strates. Mais là, c'est l'inverse, c'est la partie basse qui est la dernière qui arrive, qui supporte la partie haute. Et toute la statue est en fait une unité, et c'est elle ensemble qui est pulvérisée. Alors, les Romains ont emprunté aux Grecs la civilisation qui les a précédés. Et les Grecs eux-mêmes ont laissé en place beaucoup de choses qu'avaient mis les Perses avant eux. Et les Perses ont eux-mêmes emprunté aux Babyloniens qui s'étaient inspirés de ce que faisaient les Assyriens avant eux. Et même notre civilisation contemporaine a hérité quelque chose de chacun de ces empires du passé. On emprunte le rêve de grandeur des Babyloniens. On aime... La liberté de religion, la liberté de culte, ben c'était une des caractéristiques de l'Empire perse. Le sport, le théâtre, les jeux, les divertissements, la démocratie, tout ça est arrivé avec les Grecs. Et la politique, la recherche de l'efficacité militaire, c'est typique de l'Empire romain. Et donc, en fait, on est un petit peu tout ça. L'unité de la statue. Et il y a cette vision de la pierre. Ce qui est frappant, c'est qu'elle intervient sans aucune intervention humaine. La venue du royaume ne se fait pas par la puissance militaire. Elle se fait sans intervention humaine. la pierre se détache de la montagne. La pierre est différente des matériaux de la statue, les matériaux étaient tous nobles, mais la pierre, elle, n'a aucune valeur marchande. Jésus-Christ est venu et a été connu comme l'homme de douleur, habitué à la souffrance. Il était le fils du charpentier de Nazareth. La pierre était bien différente des matériaux de la statue. Et il est question d'une domination universelle et éternelle. Contrairement aux royaumes qui se combattent, se succèdent, se superposent, le royaume de Christ est éternel, universel, et il est différent. Il est différent de ceux qu'il remplace, qu'il pulvérise. Une autre prophétie semblable se trouve au chapitre 7 de Daniel. On va l'écouter maintenant.
La première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel eut un rêve et des visions de son esprit, pendant qu'il était dans son lit. Ensuite, il écrivit le rêve et raconta les points principaux. Daniel prit la parole et dit « Je regardais pendant ma vision nocturne, et voici que les quatre vents du ciel firent irruption sur la grande mer. Et quatre énormes bêtes sortirent de la mer, différentes l'une de l'autre. La première était comme un lion et avait des ailes d'aigle. Je regardais, tandis que ses ailes étaient arrachées. Elle fut enlevée de terre et mise debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Et voici une seconde bête, semblable à un ours. Elle se dressait sur un côté, elle avait trois côtes dans la gueule, entre les dents, et on lui disait « Lève-toi, mange beaucoup de chair. » Après cela, je regardais, et voici. Une autre, comme un léopard, avait sur le dos quatre ailes d'un oiseau. Cette bête avait quatre têtes, et la domination lui fut donnée. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, une quatrième bête, terrible, effrayante et extraordinairement forte. Elle avait de grandes dents de fer. Elle mangeait, pulvérisait et foulait aux pieds ce qui restait. Elle était différente de toutes les bêtes précédentes et avait 10 cornes. Je considérais les cornes, et voici qu'une autre petite corne sortit du milieu d'elle. Et 3 des premières cornes furent arrachées devant elle. Et voici qu'à cette corne, il y avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Je regardais, pendant que l'on plaçait des trônes, l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête purs comme de la laine. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient, et des myriades se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent, et les livres furent ouverts. Je regardais alors, à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne. Et tandis que je regardais, la bête fut tuée et son corps périt, livré au feu pour être brûlé. Les autres bêtes furent dépouillées de leur puissance. Mais une prolongation de vie leur fut accordée jusqu'à un certain temps. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici que sur les nuées du ciel arriva comme un fils d'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, l'honneur et la royauté. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle, qui ne passera pas. Et sa royauté ne sera jamais détruite. Moi, Daniel, j'eus l'esprit troublé au-dedans de moi. Mes visions m'épouvantèrent. Je m'approchais de l'un de ceux qui étaient là et lui demandais ce qu'il y avait de certain dans tout cela. Il me le dit et m'en fit connaître l'explication. Ces énormes bêtes qui étaient au nombre de 4, ce sont 4 rois qui s'élèveront de la terre. Mais les saints du Très-Haut recevront le royaume et posséderont le royaume éternellement, au siècle des siècles. Ensuite, je désirais avoir une certitude sur la 4e bête, qui était différente de toutes les autres, extrêmement terrible, qui avait des dents de fer et des ongles de bronze, qui mangeait, pulvérisait et foulait aux pieds ce qui restait. Et sur les 10 cornes qu'elle avait à la tête, et sur l'autre qui était sortie et devant laquelle trois étaient tombés. Cette corne qui avait des yeux, une bouche parlant avec arrogance et une plus grande apparence que les autres. Je regardais cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux, jusqu'à ce que vienne l'ancien des jours pour rendre justice aux saints du Très-Haut. Et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Il me parla ainsi. La quatrième bête, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la pulvérisera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux. Il sera différent des premiers, et il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut. Il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Puis viendra le jugement. Et on lui ôtera sa domination, qui sera détruite et perdue pour jamais. Le royaume, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous le ciel seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son royaume est un royaume éternel. Et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. C'est ici la fin du message. Moi, Daniel, je fus extrêmement épouvanté par mes pensées. Je pâlis et je conservais ces paroles dans mon cœur.
Alors, une autre vision de Daniel, qui a eu lieu beaucoup plus tard. La première vision, il était jeune homme. Là, c'est beaucoup plus tard dans sa vie. Mais on retrouve un petit peu un message similaire, un message parallèle. Alors, il est question là de la venue du royaume également. Alors, on peut voir deux interprétations, comme la première fois. La prophétie est accomplie par la mort et la résurrection de Christ. Et les visions de Daniel sont des tableaux qui sont indépendants les uns des autres, qui ne sont pas forcément chronologiques. Chaque fois que Daniel dit « Je regardais » au verset 2, au verset 9, au verset 13. Et donc, de faire un différent tableau, différentes visions que a eu Daniel successivement, sans lui forcément de lien chronologique entre. Bien sûr, l'aigle, c'est très clair, c'est Nebuchadnezzar qui s'est tourné vers Dieu. On verra ça la semaine prochaine. C'est le chapitre 4. Et puis ensuite, il y a l'ours, l'empire perse, avec ses 3 côtes. Il avait fait 3 acquisitions, on pourrait dire comme ça, les Mèdes, la Lydie, là où il y avait la Turquie, et également la Babylonie, l'empire de Babylone. Et le léopard à quatre têtes représente les Grecs, cet empire grec qui a été fractionné en quatre royautés à la mort d'Alexandre le Grand. Et en fait, la dernière bête, ça revient bien sûr à l'Empire romain, qui a cruellement persécuté les chrétiens et anéanti le second temple de Jérusalem. Le jugement a été rendu, le règne de Christ est en marche, et les dominations humaines restent en place quelque temps, mais Christ règne. Et l'autre interprétation, la deuxième, c'est que la prophétie sera accomplie au retour de Christ seulement. Les visions de Daniel sont des tableaux qui sont chronologiques. Néron et ses semblables qui ont persécuté les chrétiens au premier siècle, sont des images de l'antéchrist à venir et des terribles persécutions à venir. Ce sont que des images. Le jugement, la destruction du pouvoir de Satan et le règne millénaire de Christ sont encore à venir. Également deux façons de comprendre une même prophétie. La particularité des bêtes. Alors, ces puissants rois et ces empires sont présentés comme des bêtes monstrueuses. des animaux sanguinaires qui deviennent d'ailleurs de plus en plus terrifiants au fur et à mesure qu'ils sortent de l'eau. Les animaux se succèdent, mais ils se cumulent. Ils sont là tous les uns à côté des autres, un petit peu comme on avait la statue avec les différentes parties qui étaient ensemble. Et la quatrième bête est détruite, mais pas les premières. Concernant le Fils de l'homme et les saints, là non plus il n'y a pas d'intervention humaine. Le jugement a lieu dans le ciel. Le Fils de l'homme vient sur les nuées du ciel et reçoit le royaume. Tout se passe dans le ciel, sans intervention humaine. Et le Fils de l'homme est radicalement différent des bêtes. La condition d'exercice du pouvoir du Seigneur n'aura rien à voir avec ce qui se passe dans les royaumes dirigés par les hommes de ce monde. Rien à voir, quelque chose de complètement différent, autant les humains sont différents des animaux. Les saints sont associés au royaume universel et éternel. C'est un petit plus qui est souligné ici, et c'est le point important que voulait souligner l'ange quand il a révélé la signification à Daniel, la première phrase qu'il a dit. Au verset 17, ce quatrième animal, ce sont quatre rois qui s'élèveront de la terre, mais les saints du Très-Haut recevront le royaume et ils posséderont le pays éternellement, d'éternité en éternité. Les saints sont associés au Messie. Et ça ne nous surprend pas, nous qui sommes sous la Nouvelle Alliance. Jésus-Christ est présenté comme la tête et son Église le corps, ou comme l'époux et son Église l'épouse. Donc nous sommes associés à Christ en tant que chrétiens, et donc les chrétiens sont associés à ce royaume pour régner. Vous allez dire, s'il y a des interprétations qui sont différentes, et il y en a certainement beaucoup d'autres, s'il est si difficile d'interpréter ces prophéties, mais à quoi elles servent? Quelle est leur place dans la Bible? Pourquoi elles sont là? Alors on peut se mettre à la place des Juifs exilés. Qu'apprennent les Juifs exilés, les contemporains de Daniel, en voyant, en écoutant ces récits, ces prophéties? La première chose qui est frappante, c'est que la venue du Messie sera lointaine. Il y aura beaucoup de temps avant la venue du Messie. Le retour de l'exil que va vivre le peuple 70 ans après son départ ne sera qu'une image de ce que les prophètes ont annoncé. Jérémie et Ésaïe avaient annoncé un retour du peuple, et puis là c'était l'établissement du royaume. Mais non, le retour de l'exil ne sera pas le vrai retour, et ce ne sera pas l'établissement du vrai royaume. Ces choses-là sont à venir. Et c'est quelque chose que le peuple et les contemporains de Daniel devaient savoir. La venue du Messie sera lointaine. La venue du Messie concerne toutes les nations, et pas seulement le royaume de Juda. Toutes les nations, le règne de Christ sera sur toute la terre. Les textes sont en araméen, la langue internationale de l'époque. Ils étaient écrits pour être lus et compris de tout le monde, et pas seulement des Hébreux. Un troisième point, Israël ne joue aucun rôle là-dedans. Dieu seul met en place le salut selon son calendrier et sa méthode. La domination du Messie sera différente de la domination de David de l'époque, qui menait des batailles avec des flèches, avec des épées, avec des armes de fabrication humaine. Là, il s'agit de complètement autre chose. Israël ne va pas jouer de rôle là-dedans. de ce que montre ce texte. Tout se passe, tout est dans les mains de Dieu et tout se passe à son initiative. Voilà des choses qui leur sont révélées à travers ces prophéties, des choses qui sont importantes pour eux. Et pour nous maintenant, est-ce qu'elles ont quelque chose d'important, de certain, sur lequel on peut s'appuyer? Mais il y a une chose qui est, et que nous savons, et qui apparaît de ce récit, c'est que tout est bien tracé jusqu'à la venue du Seigneur. Mais le retour du Seigneur, sa seconde venue, le moment est indéterminable. Les prophéties confondent la première et la deuxième venue du Seigneur en gloire. Autant Dieu a fait connaître à Daniel et à ses compatriotes que le Messie arriverait plus tard. Autrement dit, il devait patienter, il devait supporter les épreuves, il devait s'organiser. Le Messie viendra, c'est certain, mais pas tout de suite. Pas tout de suite. Il va se passer des siècles. C'était très clair pour eux et pour nous qui sommes dans la nouvelle alliance. Ben, Jésus nous a dit, hein, je viens bientôt. Je viens bientôt. Un message radicalement différent. Autrement dit, tenez-vous prêt. Tenez-vous prêt. Vous ne pouvez le royaume, mon retour sera soudain. Le moment du retour du Seigneur est indéterminable. Pour autant, nous pouvons comprendre les temps que nous vivons. Il y a des tremblements de terre, il y en a eu un dernièrement à Haïti. Un tremblement de terre, c'est terrible. Mais après, vous savez, il y a les répliques, qui sont des petits soubresauts pendant quelques temps après le grand tremblement de terre. Et pour la venue des événements de la fin, c'est un petit peu l'inverse. Il y a d'abord les répliques qui précèdent le grand bouleversement qui aura lieu avec la venue de l'Antéchrist. Néron et ses successeurs étaient des images de l'Antéchrist. Les réformés, eux, ils voyaient de leur temps, ils voyaient le pape. Ça, c'était bien, voilà une bonne image de l'Antéchrist. C'était le pape. Et les catholiques, eux, quand ils considéraient les bouleversements qu'apportait Luther, ah, mais c'était Luther l'Antéchrist. C'était lui qu'il fallait combattre. Quand Napoléon est venu bouleverser toutes les nations de la terre en son temps, ah ben pour ceux qui étaient les puissants, les royaumes de cette époque-là, qui voyaient ce général qui bouleversait le monde entier, ah ben voilà, une image de l'Antéchrist. Dernièrement, dans ce dernier siècle, on a eu Hitler, on a eu Staline, des images de l'Antéchrist. Le monde a toujours connu des bouleversements. Il y a toujours eu des soubresauts. Il y a toujours eu ces moments où il s'est passé des événements qui nous font penser comme des images de ce qui se passera au moment du retour de Christ. Alors, maintenant, est-ce que la crise sanitaire que nous vivons actuellement, est-ce qu'elle annonce la fin des temps? Est-ce qu'elle annonce la venue de l'Antéchrist? Alors, je pense que c'est simplement un bouleversement de plus. Et on verra pourquoi la semaine prochaine. Il s'agit là d'un bouleversement, d'une secousse qui ne fait qu'annoncer un événement qui est encore à venir, dont on ne connaît pas ni la date ni l'heure. Il y a une grande leçon à retenir pour nous de ces textes, c'est que Dieu accomplira son plan de salut malgré les agitations humaines. Malgré tout ce qui peut se passer sur la terre, Dieu accomplira le plan de salut qu'il a prévu. Le salut concerne également le monde entier et les saints en sont partie prenante de ce salut. Il est pour eux. Voilà un petit peu ce que je voulais partager avec vous ce matin. L'interprétation des prophéties demande toujours beaucoup de prudence. Et c'est vrai que, bon, c'est pas un problème que de chercher à comprendre, à sonder le moment et l'heure, mais si on s'est trompé à un moment donné, bah c'est pas non plus, comme on dit, la fin des haricots. Hein. On le sait, il n'est pas possible de déterminer la date, mais il est possible d'être pris, et c'est ce que le Seigneur attend de nous. Hein. Les vierges ont toutes été surprises dans la parabole par la venue de l'époux. Elles ont toutes été surprises. Bon, il y en a qui étaient plus préparés que d'autres. Et c'est bien là le défi pour nous, c'est d'être prêts. Alors, on va avoir le temps de chanter quelques chants qui nous parlent de ce retour en gloire de Jésus. Mais avant ça, je voudrais prier. Notre Père Céleste, merci pour ta parole. La façon dont tu as parlé à travers les prophéties est souvent si énigmatique, mais tu révéleras les choses en leur temps. Nous qui sommes placés bien après tous ces événements, nous pouvons voir que tu as vraiment annoncé par avance la venue de ton Messie et les événements qui se passeraient avant. Les contemporains qui ont été là n'ont pas pu lire les événements. C'était difficile de comprendre les dates, c'était difficile de savoir quand le Messie allait venir. Ils avaient simplement la certitude qu'il viendrait. Et nous, on voit que toutes ces prophéties se sont accomplies, la succession des empires, des royaumes, tels que tu l'avais révélé à Daniel. Et notre foi doit être, Seigneur, maintenant encore plus grande dans ce qui concerne ton retour. Que nous ne nous endormissions pas, que nous ne nous dormions pas, mais que nous veillons et que nous soyons toujours vigilants pour pas être surpris ce jour-là. Merci, Seigneur, pour la façon dont tu fais les choses, aide-nous à comprendre ta parole. Aide-moi, Seigneur, à l'exprimer de façon qui soit utile pour mes frères et sœurs et qui fortifie leur foi. Dans le nom de Jésus. Amen.